France Inter.
Le journal. Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Une fusillade dans une salle de concert à Moscou. Trois assaillants en tenue militaire, des victimes. C'est l'information de ce début de soirée. Nous sommes en direct de la capitale russe dans un instant. Un directeur mis à pied et une rédaction en grève illimitée. Le quotidien La Provence est en crise après une critiquée. Le propriétaire patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, accusé d'interventionnisme. Lui qui est en passe de s'offrir la chaîne BFM TV. L'actualité, c'est encore les box internet, très énergivores. Le ministre de l'Intérieur qui veut des tests salivaires sur la voie publique. Et puis le meilleur de la musique, au Mexique, ce sont les top musiques de Mathieu Culeron, comme chaque vendredi. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, à 4 mois du début des compétitions, nous allons parler de l'aspect social des Jeux de Paris, car pour la première fois, un pays organisateur s'est doté d'une charte sociale, une charte en 16 points. Cela concerne les chantiers de construction, mais aussi la lutte contre la précarité, le travail clandestin, la formation des agents de sécurité, j'en passe. On sera avec les deux coprésidents du comité de suivi de la charte sociale. Ils nous diront si d'après eux, celle-ci a été respectée, si la France mérite d'ores et déjà une médaille pour sa charte sociale.
France Inter.
L'information nous est parvenue il y a quelques minutes, cette fusillade à Moscou, dans un centre de congrès de la capitale russe. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant en direct de Moscou. Il y a encore une certaine confusion, peu de détails, mais il y a des victimes.
Oui, c'est très clair. Ce que l'on sait des premières informations qui nous parviennent, c'est qu'une fusillade suivie d'une explosion et d'un incendie a eu lieu il y a moins d'une heure dans un immense centre qui se trouve à l'ouest de Moscou, qui s'appelle le Krokus City Hall. C'est un centre commercial, une salle de concert, il y a des bureaux, c'est un complexe immense, il y avait beaucoup de monde en ce vendredi soir. Il y a des victimes, c'est très clair. Des images commencent à remonter sur certains médias russes. De ce que j'ai pu voir, on voit 4 ou 5 au minimum en treillis, en armes de guerre, entrer dans le complexe. Ils ont manifestement neutralisé la sécurité et on voit ensuite ces hommes progresser dans le hall, tirer parfois à bout portant sur les gens qui se trouvent là. Il semble qu'il y ait eu des tirs jusque dans la salle de concert où un spectacle avait lieu, était en train de se terminer ou de commencer. C'est encore un peu confus. Cette fusillade a fait des victimes, hein, je le disais, c'est très clair. On voit ces victimes sur un certain nombre de vidéos qui nous parviennent. Et puis derrière, donc, il semblerait qu'il y a eu une explosion et à l'heure où je vous parle, un incendie extrêmement violent est en train de ravager ce centre commercial et cette salle de concert. Les flammes et la fumée sont visibles à des kilomètres. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour savoir quelles pouvaient être les motivations des tireurs à cette heure-ci, mais c'est un événement extrêmement grave qui est en train de se produire actuellement dans la grande banlieue de Moscou.
Sylvain Tronchet, notre correspondant en direct de Moscou, on revient évidemment sur ces événements dans nos prochaines éditions ou dans ce journal, si l'on a plus d'informations. La Russie qui est accusée de frappe brutale sur l'Ukraine aujourd'hui par Washington. Quelques 90 missiles, 60 drones explosifs se sont abattus sur le pays la nuit dernière, ciblant des infrastructures énergétiques. C'est l'attaque la plus massive des derniers mois, Valérie Krova.
La plus importante attaque contre l'industrie énergétique ukrainienne depuis le déclenchement du conflit par Moscou en février 2022. C'est le ministre de l'énergie ukrainien qui l'affirme. 136 installations ont été visées, ce qui fait dire au même ministre que le but de la Russie était d'essayer d'imposer une nouvelle fois un blackout massif du système énergétique du pays. De fait, à Kharkiv, il n'y a plus de courant ni de chauffage. 20 missiles se sont abattus sur la deuxième ville d'Ukraine, qui se trouve à 30 km seulement de la frontière russe. Dans la région de Zaporijja, c'est la plus grande centrale hydroélectrique située sur le fleuve Dniepr qui est hors de service. Construite à l'époque soviétique, elle a été touchée par 8 missiles. Les autorités ont écarté pour le moment tout danger pour la population de cette région, traumatisée par la rupture d'un autre barrage hydroélectrique situé en aval en juin 2023. De larges bandes de terre avaient été inondées, ce qui avait nécessité l'évacuation de 8000 villageois.
Valérie Krova, il était déjà arrivé à Vladimir Poutine d'utiliser le terme « guerre » pour qualifier le conflit en Ukraine, rarement toutefois. Et le porte-parole du Kremlin va plus loin aujourd'hui et pour la première fois, juge que la Russie est en état de guerre au moment où le Conseil européen est réuni à Bruxelles, où le chef de l'État français dénonce l'indignation dignité de responsables russes qui s'attaquent à la France. Moscou de plus en plus agressif vis-à-vis de Paris depuis les déclarations d'Emmanuel Macron n'excluant pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Le président français qui veut aussi reprendre la main sur le conflit au Proche-Orient après l'échec du vote de la résolution américaine cet après-midi aux Nations Unies pour un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, alors que les Américains, pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre, acceptaient d'utiliser ce terme de cessez-le-feu. La Chine et la Russie ont voté contre. La France travaille donc à un nouveau projet de résolution, confirme Emmanuel Macron.
Nous avons collectivement exhorté les autorités israéliennes à ne pas entreprendre d'opération terrestre à Rafah, ce qui ne ferait qu'aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique, alors que plus d'un million de Palestiniens sont déplacés à Rafah. Ce message, nous le portons au Conseil européen et dans toutes les enceintes internationales. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis le mois d'octobre, la France s'est mobilisée pour que le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités. Il faut maintenant que le Conseil de sécurité se prononce sur un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire. Après le veto posé par la Russie et la Chine il y a quelques minutes, nous allons reprendre sur la base du projet de résolution français au Conseil de sécurité et travailler avec nos partenaires américains, européens, arabes en ce sens pour trouver un accord.
Emmanuel Macron depuis Bruxelles, un vote sur un nouveau texte aura lieu demain, fait savoir le Conseil de sécurité de l'ONU.
Et l'on part au Royaume-Uni tout de suite, Hélène.
Oui, parce que la princesse Kate donne à l'instant des nouvelles de sa santé. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant en direct de Londres. Richard, on sait que l'état de santé de la princesse inquiète ces derniers mois, depuis son opération à l'abdomen, beaucoup de mystères, beaucoup de silence autour de son état de santé. La princesse Kate annonce ce soir qu'elle est atteinte d'un cancer.
Oui, dans une vidéo qui vient d'être publiée, une vidéo où Kate Middleton est assise sur un banc et face caméra, l'air grave, elle explique son état de santé sur lequel effectivement il y a eu beaucoup de rumeurs depuis le mois de janvier, depuis cette opération de l'abdomen où à l'époque il avait été dit au grand public que cela n'était pas un cancer, même si l'on ne sait toujours pas d'ailleurs de quoi elle a été opérée. Et elle explique dans cette vidéo qu'à l'époque, en effet, il n'y avait pas de cancer. Mais au moment de cette opération, des prélèvements ont été effectués et l'équipe médicale a découvert ensuite un cancer. Elle subit actuellement un traitement en chimiothérapie. Elle l'a débuté, c'est ce qu'elle explique dans cette vidéo. Et elle a pris le temps de débuter ce traitement et d'expliquer à sa petite famille, ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, ce qui était en train de se passer avec le futur roi William, son mari. Ils ont voulu faire cela en famille, ensemble, avant de communiquer comme elle le fait donc ce soir pour prendre la parole face au peuple britannique qui se posait beaucoup de questions ces dernières semaines avec énormément de rumeurs qui circulaient, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par le biais de bots russes. On a vu beaucoup de choses circuler de cette manière-là également. Eh bien, là, cette fois, elle coupe court aux rumeurs en annonçant sa maladie.
Merci beaucoup, Richard Place, en direct de Londres pour ce message vidéo qui vient d'être posté. Je vais bien, rassure la princesse Kate Middleton qui annonce donc son cancer et son traitement en chimiothérapie.
C'est une photo et un titre qui ont tout déclenché en France.
France, oui, au surlendemain de la visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille pour une opération Place Nette XXL contre le trafic de drogue. Le quotidien La Provence met en une l'image du quartier de la Castellane, de jeunes au premier plan, de dos sous le titre « Il est parti et nous, on est toujours là ». Citation d'un habitant de la cité. C'est cette une qui entraîne, moins de 24 heures plus tard, la mise en retrait du directeur de la rédaction. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir Hélène.
En direct de Marseille et qui a provoqué une grève illimitée de la rédaction décidée aujourd'hui.
Oui, une grève illimitée votée par les journalistes de La Provence pour dénoncer l'attitude de leur direction. La direction du journal qui a estimé après coup que cette fameuse une était ambiguë, qu'elle pouvait laisser penser que le journal avait donné la parole à des trafiquants de drogue qui voulaient narguer l'autorité. Un message d'excuse a donc été publié pour les lecteurs et le directeur de la rédaction mis en retrait. Une réaction incompréhensible pour Émilie Davy du syndicat CFE-CGC des journalistes de La Provence.
On a simplement fait notre métier en expliquant ce qui se passait. Et pourtant, on met en retrait le directeur de la rédaction pour cette une-là. Donc, c'est quoi la suite ? Comment on travaille ? On va être derrière nous pour relire tous les titres, valider tous les titres ? On va être dans la peur ?
la soudaineté de cette mise en retrait laisse penser qu'il y a pu y avoir des pressions politiques, une ingérence de l'actionnaire de la Provence, la CMA-CGM, dont le patron Rodolphe Saadé est réputé proche d'Emmanuel Macron. Sylvain Pignol, du syndicat des journalistes de la Provence.
Ce qui nous inquiète aussi, c'est que quand on voit que l'actionnaire unique de la Provence, la CMA-CGM, a l'ambition de constituer un pôle médiatique d'envergure, avec le rachat annoncé récemment de BFM TV et de RMC, on s'inquiète aussi pour nos confrères sur la possibilité de pouvoir traiter l'actualité telle qu'ils l'entendent et fidèlement à leur mission d'information indépendante.
Les syndicats de la Provence alertent donc leurs confrères des autres médias détenus par la CMA-CGM et rappellent qu'une charte de déontologie était en cours d'écriture avec l'actionnaire, mais elle n'a même pas eu le temps d'être adoptée que déjà l'indépendance a été froissée, dénoncent les syndicats.
Et Mathilde Vincenot, direct de Marseille, et les salariés de la Tribune, propriété du même Rodolphe Saadé, annoncent ce soir se mettre en grève mardi. Inquiétude exprimée aussi au pôle média d'Altice, la chaîne de télévision BFM TV, notamment que l'armateur compte racheter. La société des journalistes de la chaîne dénonce une décision scandaleuse et répète leur attachement viscéral à l'indépendance des rédactions. Un rassemblement est aussi annoncé mardi à 10h. La crise au journal La Provence, après un déplacement du chef de l'État contre les trafics de drogue, le gouvernement veut aussi cibler les consommateurs. Et aujourd'hui, c'est Gérald Darmanin qui fait une nouvelle proposition. Bonsoir Morgane Klein-Refray.
Bonsoir.
Le ministre de l'Intérieur veut autoriser les tests salivaires sur la voie publique.
Oui, aujourd'hui, les dépistages par test salivaire, ils n'ont lieu que dans le cadre des contrôles routiers, suite à un accident ou de façon aléatoire depuis 2016. Gérald Darmanin veut donc changer l'arsenal. La loi autorise déjà des tests d'alcoolémie en cas d'ivresse manifeste dans la rue. L'idée, c'est de calquer le dispositif pour les stupéfiants. Reste à voir la mise en place. Contacter le ministère de l'Intérieur ne dit pas sous quelles conditions se feraient ces tests salivaires. Et c'est bien ce qui interroge les syndicats policiers. Quels critères pour définir que quelqu'un est sous l'emprise manifeste de drogue? Serait-ce passible d'un simple PV? Et si la personne prend le volant ensuite à un accident, ça mettrait les policiers dans l'embarras de l'avoir contrôlé, puis laisser partir, explique un responsable syndical. La faisabilité d'une telle mesure reste donc à voir pour lui, un peu comme le paiement immédiat des amendes forfaitaires pour les consommateurs. Le règlement par carte bleue, possible en théorie depuis novembre, peine selon les syndicats à se concrétiser.
Des amendes forfaitaires créées en 2020 et dont le taux de recouvrement reste d'à peine 35%. Et puis c'est au Liban qu'un narcotrafiquant français a été arrêté aujourd'hui, surnommé le professeur, condamné par contumace en octobre dernier pour son rôle dans l'importation d'une cargaison de 720 kilos de cocaïne cachée dans une cargaison de bois venant du Brésil. Elle était arrivée par erreur dans une société d'un village du sud-ouest de la France. Ça fait 6 mois, jour pour jour, que la jeune Lina a disparu près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, alors qu'elle se rendait à la gare. 6 mois que sa mère, Fanny Groll, attend désespérément des nouvelles. Elle réclame aujourd'hui l'accès au dossier d'instruction. Maud Chaya, France Bleu Alsace.
Lors de leur entrevue avec les juges début février, on leur avait promis des nouvelles d'ici au 15 mars. La date est passée, regrette Mathieu Héroldi, l'avocat de la mère de Lina. Il voudrait maintenant avoir un minimum d'informations.
Au moins les pistes qui sont fermées. Au moins la maman saurait qu'on a... Plutôt que de se dire, dans sa tête, tout tourne, les questions se posent, elle n'arrête pas de se poser des milliards de questions, et c'est normal. Et donc, avoir un accès aux pistes qui seraient fermées permettrait de lui accorder un peu de sérénité pour dire, bon ben voilà, je m'imaginais que c'était peut-être lui ou elle. C'est le dossier de sa vie, c'est le dossier de sa fille.
Fanny Groll confirme, ce silence devient insupportable. Elle se repasse tous les scénarios possibles dans sa tête, notamment par rapport au chemin emprunté par Lina ce jour-là.
Moi, j'ai dit toujours, on n'y passe pas. On y va. C'est pas un chemin de passage, hein. C'est pas une nationale, c'est une toute petite route qui fait que où on se rend chez soi, où on va dans un gîte, où on va chercher des champignons, où on va marcher. C'est un coin qu'on doit quand même un peu connaître pour l'emprunter.
J'espère toujours que quelqu'un pourra se signaler pour dire ce qu'il a vu ce jour-là, conclut Fanny Groll, qui exhorte par ailleurs les gens à témoigner auprès des gendarmes plutôt que sur les réseaux sociaux.
Maud Chaya, France Bleu Alsace.
On s'en doutait, l'ARCEP le confirme, les box internet sont très énergivores.
Le régulateur des télécoms se penche pour la première fois sur la question dans son enquête annuelle sur l'impact environnemental du numérique. Bonsoir Adrien Serrière.
Bonsoir.
On se souvient que le gouvernement avait demandé aux Français d'éteindre leurs box en pleine crise énergétique l'année dernière. Alors, à raison ?
Oui, Éteindre sa box quand on n'en a pas l'utilité reste le seul moyen vraiment efficace d'en réduire la consommation d'électricité. C'est ce que nous apprend le rapport de l'ARCEP qui a étudié de près les données d'une quarantaine de modèles. Conclusion, tenter de faire des économies d'énergie en se connectant moins au Wi-Fi, en sollicitant moins votre box, n'aura que très peu d'incidence puisque 95% de sa consommation est invariable, que vous soyez non-stop sur Internet ou pas du tout. Et pourtant l'enjeu est important. Imaginez l'énergie nécessaire pour recharger l'ensemble des véhicules électriques de France pendant un an, eh bien nos box et décodeurs en utilisent plus de deux fois plus. Ces dernières années, la France a réussi à réduire progressivement sa consommation électrique totale, mais celle liée au réseau fixe et mobile progresse. Il y a donc là un levier d'action, mais peu de solutions. En voici une, tout de même proposée par l'ARCEP. Elle invite les opérateurs à développer des box capables de se mettre automatiquement en veille profonde. Certains modèles le propose déjà. Et pour les autres, il n'y a pas de meilleure solution que de débrancher avant de sortir.
Adrien Serrière, merci à vous. Revoici le débat sur la taxation des super-profits au-delà des énergéticiens, suggéré aujourd'hui par la présidente de l'Assemblée nationale pour enrayer le déficit public, mais immédiatement écarté par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui ne veut pas, dit-il, de nouvelles hausses d'impôts. Raffinerie, papeterie, une cinquantaine de sites industriels s'engagent aujourd'hui à réduire leur utilisation d'eau. Les plus gros consommateurs, à eux seuls un quart de l'eau consommée par l'industrie française. Et en cette journée mondiale de l'eau, la question est une urgence partout. Les élus aussi alertent, et pas uniquement dans les Pyrénées-Orientales. Hélène Sandranier est la présidente socialiste du conseil départemental de l'Aude.
Déjà aujourd'hui, en mars, parce que les ressources n'ont pas pu se reconstituer en hiver, nous alimentons des communes qui sont privées d'eau potable. D'habitude, il tombe environ 780 mm d'eau. En 2023, on était à 250 mm. On ne va pas tomber dans le débat de la méga bassine ou de rien. Il y a des solutions alternatives. Un forage ici, une retenue ici. Nous agissons, mais nous avons besoin de l'État. Nous avons vécu des choses terribles cet hiver. Des territoires ont été inondés. Et dans ce pays, effectivement, on vit un trop d'eau d'un côté et pas assez, voire pas du tout d'eau dans l'autre. Donc je dis à monsieur Attal, à qui j'ai écrit, mais venez monsieur Attal, vous êtes allé voir ce que c'est que le trop d'eau, mais venez voir sur nos territoires, dans l'Aude, ce que c'est de ne pas avoir d'eau. Nous allons en mourir si on ne nous aide pas.
Hélène Sandranier avec Fabien Cazot. Les intercommunalités plaident pour un ministère de l'eau en tant que tel. L'hydrologue Emma Aziza a été sur Inter hier pour évoquer ces questions et plus largement celles liées au climat, évoquant la France comme étant le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, a-t-elle dit. Certes, la France se réchauffe plus rapidement que la moyenne, mais les régions arctiques restent celles qui enregistrent la plus forte progression. Vous retrouvez toutes ces précisions sur un article sur le site de France Inter. Et comme chaque semaine, Mathieu Culeron fait son entrée. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Spécialiste musical, rédaction d'Inter. Avec vous chaque semaine, on parle de ce qui s'écoute le plus et on part au Mexique ce soir avec un artiste au style bien particulier.
Oui, il s'appelle Luis R. Corniquez. Il est encore numéro 1 du top album cette semaine et à 28 ans, il est l'artiste eh bien, le plus populaire du moment au Mexique. Il fait partie des artistes qui chantent des narco-corridos, c'est-à-dire des chansons qui raconte la vie des narcotrafiquants. C'est devenu un style musical à part entière, figurez-vous là-bas. Luis, qui a travaillé dans une station-service avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui, dans le classement musique mais aussi sur les réseaux sociaux, 16,5 millions d'écoutes sur Spotify. Sin Tanto Rollo, c'est son dernier morceau qui rassemble 62 millions d'écoutes. Papas traigo hasta pa un caldo y en las dos puertas vengo
chicoteado, no más se ve el polvadero. Voilà pour cette plongée musicale au cœur du Mexique. Et à la deuxième place du classement, on retrouve un disque un peu moins attendu, Mathieu.
Oui, on peut éventuellement y voir une passion commune pour les masques. Masques pour les catcheurs mexicains et masques puis casques pour les Daft Punk qui sont effectivement deuxième du top album mexicain avec l'ultime album du duo français Montmartre 3 qui est ressorti dans une version sans boîte à rythme, sans batterie. La French Touch que l'on retrouve donc un peu partout dans le monde, y compris donc au Mexique. Ce titre est extrait de l'album Random Access Memory avec en invité au chant Todd Edwards. Driving this road down to paradise, letting the sunlight into my eyes.
Merci beaucoup Mathieu Culeron pour ce top musique. On vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous rappelle les deux informations qui nous sont parvenues dans le cours de ce journal. L'une en Russie, une fusillade a éclaté dans un centre de congrès dans la banlieue de Moscou. Plusieurs assaillants en tenue militaire. Il y a encore beaucoup de confusion, peu d'informations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de victimes. Et puis dans le courant de ce journal, aussi en provenance du Royaume-Uni, cette information communiquée par la princesse Kate Middleton, un message vidéo qu'elle a posté pour annoncer qu'elle souffrait d'un cancer, qu'elle était traitée par chimiothérapie. Deux informations sur lesquelles on va revenir dans le journal de 20h.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était le journal d'Hélène Filly. On va prendre des nouvelles du temps à présent.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Un retour d'un temps perturbé.
Oui, avec des pluies qui s'enfoncent de la Manche vers le sud et l'est du pays ce soir et cette nuit. Demain matin, il restera un petit peu de pluie vers les Pyrénées, sur le flanc est également. Ailleurs, ce sera souvent changeant avec des nuages, des éclaircies, quelques averses, des éclaircies plus belles quand même sur l'ouest. Et puis pour les températures, le matin, 3 à 9 degrés au nord et 7 à 11 au sud.
Et l'après-midi, des giboulées au nord cette saison.
Exactement, de la Manche jusqu'aux frontières du nord et du nord-est en passant par la région parisienne. Des averses, parfois un coup de tonnerre, du grésil, du vent, de la neige vers 800 mètres sur les massifs de l'Est, des éclaircies discrètes. On aura un petit peu plus d'éclaircies du Val-de-Loire au nord des Alpes avec seulement quelques averses. Et puis plus au sud, davantage de soleil, surtout sur le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en Méditerranée avec du vent. Les températures, elles baisseront nettement, parfois 6 à 10 degrés de moins qu'aujourd'hui. 8 degrés attendus à Rouen, 11 à Rennes, Paris et Mulhouse, 13 degrés à Clermont-Ferrand, 15 à Bordeaux, Toulouse, Grenoble et encore 20 degrés à Perpignan ou à Marseille.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.